Presque 16h50, Raphaël est là pour nous parler. On sort un petit peu du milieu de la politique. Là. Il y a, écoute, onde de choc causée par des révélations de Uber.
Oui, de la compagnie Uber qui a diffusé proactivement. Ça, c'est la première chose qui doit être dite d'emblée. Ce n'est pas une enquête qui a été menée sur Uber. C'est Uber qui a essentiellement enquêté sur elle-même et après coup a diffusé un rapport d'un peu plus de 80 pages sur la sécurité, ou peut-être plus, selon certains, le manque de sécurité dans ces services lors des courses qui sont effectuées par ces chauffeurs. On parle de plus de 2 milliards de courses en 2017 et en 2018 qui ont été faites par Uber, par des voitures Uber aux États-Unis. Donc, c'est un nombre évidemment gigantesque. Il reste que sur ces 2 milliards-là, tu as eu plus de 3000 attaques en énorme partie de nature sexuelle et l'écrasante majorité des victimes seraient des femmes. La défense d'Uber, c'est de dire que peut-être que 3000, ça va être beaucoup.
Je t'arrête une seconde, OK? Est-ce que ces attaques-là, ce sont des attaques qui ont mené à des accusations criminelles ou c'est suivant le formulaire de plainte?
C'est une excellente question. Ça, il faudrait vérifier. À ce stade-ci, je n'ai pas cette information-là. Ce que je peux te dire, par contre, c'est la défense d'Uber. La défense d'Uber, c'est de dire que 99,9% de ces courses se sont déroulées sans incident lié à la sécurité. En même temps, je te dirais que c'était à 0,1%, ça veut dire que c'est une course sur 1000. Je ne suis pas sûr que ça tente de conseiller à ta femme ou à ta mère ou à ta sœur de prendre une chance sur 1000 de te faire violer ou de te faire agresser. Fait que c'est assez accablant en soi. Et une fois que ça s'est dit, je le répète, ça a été fait de façon proactive. Et donc, réaction assez intéressante de la part de plusieurs groupes aux États-Unis de défense des victimes de ce genre d'attaque-là qui ont en fait applaudit Uber pour sa transparence. Une fois que ça s'est dit, je pense que c'est assez clair que ce n'était pas juste fait de bon cœur. C'est aussi en bonne partie un coup de relations publiques dans la mesure où Uber a perdu sa licence à Londres il y a à peine quelques semaines à cause de questions liées à la sécurité, encore une fois. Donc, écoute, on se parle beaucoup de la polytechnique aujourd'hui. Évidemment, c'est très différent, mais il reste que la violence, de façon très générale, envers les femmes, et c'est drôle parce qu'on s'en parlait il y a quelques jours dans un autre contexte encore, ça reste malheureusement très d'actualité, à la fois ici et aux États-Unis.
Oui, mais écoute, je regarde là, ce sont des plaintes reçues par Uber, et 2936 cas comme ça, là, c'était des agressions sexuelles, mais il y a aussi des cas où le chauffeur ou la chauffeuse ont été attaqués aussi. Mais
mentionnons-le rapidement, parce que pour avoir utilisé Uber aux États-Unis, à Miami, en fait, pour être encore plus spécifique, il y a un peu plus d'un an, écoute, aux petites heures de la nuit, on avait commandé un Uber. C'était une femme nettement plus jeune que moi qui conduisait, de peut-être 24, 25, 26 ans. Donc, c'est pas, faut pas en faire un cas général. Ça ne veut pas dire, parce que j'ai eu cette expérience-là, que évidemment toutes les conductrices sont âgées de 25 ans, sont des femmes et conduisent à minuit ou à 1 heure du matin. Mais il reste que c'est sûr qu'il n'est pas seulement question de passagers qui ont été agressés dans ces cas-ci. Il y a aussi plusieurs chauffeuses, de ce qu'on en comprend, d'Uber qui auraient été des victimes.
OK. Et des bonnes statistiques économiques aux États-Unis là, pour la création d'emplois?
Bonnes. Je dirais extraordinaires. Il ne faut pas mâcher ces mots. Là. On attendait 180 000 nouveaux emplois dans le mois dernier. On est à 270 000. Ça aussi, évidemment, c'est un estimé, mais on s'attend à ce que les nombres finaux soient assez proches de ça. C'est le 110e mois consécutif avec une création nette d'emplois aux États-Unis. C'est un record et le taux de chômage est à 3,5. Là, tu vas me demander dans la chronique de Catherine si tu as rendu chroniqueur cinéma, après chroniqueur transport, peut-être maintenant chroniqueur économique. Non. Voici pourquoi je te le mentionne, parce que dans moins d'un an, on le sait, ça va être l'élection présidentielle aux États-Unis. La littérature en sciences politiques américaines est grosse comme ça de modèles statistiques qui lient les résultats des élections présidentielles à l'état de l'économie. L'économie va bien. Normalement, selon les politologues américains, ça devrait donner un coup de pouce à Donald Trump. Une fois que ça s'est dit, et ça, c'est fascinant, parce qu'on se fait tout le temps demander comment ça qu'il n'y a rien qui colle à Trump. Il est comme, c'est du teflon, peu importe ce qu'il fait. Mais non, justement, parce qu'avec des résultats économiques comme ça, son taux d'approbation, s'il était un président normal, qui se comportait de façon normale, il serait drôlement plus élevé que ça. C'est pas normal que Donald Trump soit encore à 43 ou à 44% quand l'économie connaît des sommets qu'on n'a pas vus. Écoute, en un demi-siècle. Donc,
normalement, il devrait être à combien?
Ben, c'est difficile à estimer comme
non,
ça.
Mais c'est sûr qu'il devrait être moyenne, c'est 50 ou 70?
Nettement au-dessus de 50%. Okay. C'est sûr que c'est difficile aujourd'hui, là, dans les années 2000-2010, parce que le pays est tellement polarisé, c'est difficile pour n'importe quel président d'être à 60 ou à 70%. Parce que tu es un républicain, les démocrates, les électeurs démocrates, en partant, t'aiment pas la face et vice-versa. En même temps, t'es pas censé avoir une majorité d'Américains qui désapprouvent de ton travail quand économiquement, qui, et on le rappelle, l'économie est le facteur numéro un, bon à mal an, pour les électeurs, quand la majorité, la quasi-totalité des indicateurs économiques sont aussi bons que ça.
OK, parfait. Tu veux me parler d'une anecdote qui nous rappelle de faire attention, Raphaël, à ce qu'on fait dans notre garage?
Tu connais l'expression, la fameuse expression, Pat, « only in America ».
Bien sûr, oui. Des choses absurdes ou excentriques.
Qui ne peuvent se produire qu'aux États-Unis d'Amérique. Donc, je t'amène à Columbus, en Ohio, c'est hier soir. Un homme appelle le 911 en disant qu'il s'est brûlé dans son garage à la maison, là, en travaillant sur ce qu'il appelle un générateur de physique quantique.
Donc, Rien de moins.
Donc, la police débarque, on s'entend assez affolé, merci, en croyant que le type est en train de construire un réacteur nucléaire dans son garage. Donc, il évacue le quartier au complet, 40 maisons qui sont évacuées. Il fouille le garage en question avant de déterminer qu'en fait, il n'y avait aucune espèce de menace. Donc, tu vas me demander, ça veut dire que ça finit bien pour tout le monde? Oui, sauf une personne, l'homme qui a logé l'appel au 911 en premier lieu. Pourquoi? Parce qu'il va devoir subir une évaluation de santé mentale. Et très sérieusement, il pourrait être accusé, et je cite là, le nom du délit en Ohio, d'avoir incité ou causé la panique. Ça, c'est passible dans l'État de l'Ohio d'une amende de 1 000 et de 6 mois en prison. La morale? Construisez pas de réacteur nucléaire dans votre garage ou même ne laissez pas croire que vous construisez un réacteur nucléaire dans votre garage.
Mais réacteur nucléaire ou un machin quantique?
Un générateur de physique quantique. Il faudrait que tu m'expliques.
OK, lui, c'est ce qu'il a dit.
Exact.
C'est ce qu'il a
dit
en appelant le 911.
La police
a interprété quantique, nucléaire.
Et bon, voilà.
Ça prendrait des physiciens au 911. Merci beaucoup, Raphaël. On te retrouve la semaine prochaine dès lundi. On va s'arrêter un peu, une petite pause de nouvelles. Et après ça, écoutez, on tombe en émission spéciale. Pourquoi? Parce que on va être en direct des commémorations du 30e, j'allais dire anniversaire, j'allais dire ça, du 30e de Polytechnique.